11 novembre de l'an de grâce 2011, vous écoutez La vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD sur les ondes du 89.1. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Toujours un plaisir de vous retrouver, de débuter le week-end ensemble et de le débuter en portant un regard bien attentif sur la sphère de l'animation, de l'illustration et de la bande dessinée. Une belle émission pour vous cette semaine. Côté invité, en fait, on va rencontrer principalement des duos qui font de la BD, évidemment. Alors, notamment, une récente parution, tome 5 de l'album de la série Les Nombris, une bande dessinée extrêmement populaire, il va sans dire, une sortie qui était bien attendue. On aura l'occasion de discuter de cette parution avec Delaf et Dubuc un peu plus tard aujourd'hui. Une nouvelle série également qui a été lancée tout récemment. Lancement Biodôme de Montréal, d'ailleurs, et c'est fort à propos dans la mesure où la série s'appelle Biodôme et se passe au Biodôme de Montréal. Alors, les auteurs Johan Morin et Frédéric Antoine seront avec nous également un peu plus tard aujourd'hui. Côté chronique, cette semaine, c'est le tour d'Olivier Bérard-Vidal qui nous parle de l'univers du fanzine, de l'illustration. Cette semaine, il va nous parler de Raymond Bézinger et de Simon Bossé, donc deux artistes qui nous viennent de Montréal. Ils viennent d'ailleurs tout juste de faire ensemble World War One, un petit livre de type fanzine sur la Première Guerre. Alors, on aura un peu plus de détails avec Olivier en fin d'émission aujourd'hui. Et évidemment, Stéphane Gravel sera de passage aussi pour nous porter, porter à nos oreilles en fait ses commentaires BD. Alors notamment, on va parler de Portugal de Pedrosa. Alors voilà pour le menu pour cette semaine, pour ce vendredi. Bien entendu, comme à chaque semaine également, une suggestion musicale qui va nous accompagner au fil de l'heure. Et cette semaine, en fait, ce sera un artiste qui s'appelle Cert One avec un album qui s'appelle Withers. Et c'est un album d'ailleurs qui est disponible gratuitement sur Bandcamp. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous recommande d'aller y faire un petit tour, ça vaut la peine. On va écouter quelques extraits donc au fil des prochaines minutes. Et ben tiens, on commence immédiatement illico avec un premier petit extrait de Cert One qui s'appelle Fly High. Extrait donc de Cert One, artiste qui nous accompagnera au fil de l'heure. Et ben, au bout du fil, maintenant, on va parler BD puisque Stéphane Gravel est avec nous. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Et Stéphane, en fait, tu profites de novembre pour nous faire changer de décor. En fait, il fait déjà noir. On s'habitue à peine et on s'en va au Portugal en BD.
J'étais justement en train de regarder par rapport à ma fenêtre puis je me disais, on fait des chroniques de nuit.
Oui, véritablement.
Portugal est une BD une BD, honnêtement, c'est une BD pas mal extraordinaire. Là, c'est Pedroza qui a fait cette BD-là. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui réussit à raconter les histoires avec beaucoup de sentiments, beaucoup de dimensions humaines, et avec un rythme qui est assez intéressant aussi, qui est assez lent. Et écoute, déjà, si je parle de rythme là, puis de lenteur du rythme, cette BD là quand même 260 pages.
Il se donne la place pour avoir justement ce rythme là.
Oui, il se donne la place pour. Je pense que on dit que c'est l'événement de la rentrée là chez Dupuis, puis je pense que c'est vraiment l'événement de la rentrée. De toute façon, pour oser faire une bande dessinée format classique, c'est-à-dire format standard BD, couleur de 260 pages, ben il faut le faire parce que ça devient quand même un livre qui devient cher et qui est assez volumineux.
Oui, et on imagine que pour l'éditeur, il faut faire confiance aussi à l'auteur en disant OK, il va être capable de livrer un livre qui va se vendre, qui va sortir. Là.
Ben, c'est souhaitable. Il y a des marchés de la BD qui sont tellement assez. C'est tellement surprenant comment le marché de la BD peut être faible. Je parlais avec des auteurs dont Hervé Bourris et La Main Verte chez Futuropolis, qui disaient qu'il avait peut-être vendu 1500 albums de ce titre-là. Mm-hmm. Et puis là, c'est pas au Québec, ça c'est partout. C'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment les éditeurs ont vraiment misé sur Pedroza et Portugal pour la rentrée. C'est lui qui avait fait une BD que j'avais beaucoup aimé, c'était chez Delcourt. Ça s'appelle Trois ombres, et c'était l'histoire, entre guillemets, d'un enfant qui fuyait un peu des ombres. Il était avec son père et il y avait toute une histoire qui se dessinait entre réel et imaginaire. Là, je ne sais pas si tu te souviens de cette BD-là.
Oui, oui, oui.
Mais c'était une BD qui était exceptionnelle. Et là, avec Portugal, ben, on va en parler un peu. C'est un retour aux sources. C'est l'histoire d'un auteur qui est face au syndrome de la page blanche, qui est à dire qu'il est plus capable, il n'y a plus d'inspiration. Mais au-delà de ne plus avoir d'inspiration, il se trouve pas bon, il se trouve pourri, il trouve qu'il est bon à rien. Et puis il retourne à ses sources pour pouvoir essayer de savoir d'où il vient, qui il est, c'est qui sa famille portugaise, parce que lui il vit en France. Et puis j'ai l'impression que c'est assez autobiographique. J'ai l'impression que Pedroza a eu probablement une panne sèche lui aussi, puis qu'il est retourné à ses sources pour pouvoir essayer de trouver l'inspiration, et qu'il a décidé d'en faire à quelque part une espèce de carnet illustré ou de journal, parce que ça ressemble un peu à ça. C'est drôle parce que je parlais de La Main Verte tout à l'heure et c'est un peu la même histoire, hein, La Main Verte.
Un retour aux sources, un retour à la terre.
Un retour aux sources, c'est l'auteur qui retourne voir son père pour apprendre à faire pousser des tomates, mais dans le fond, c'est aussi l'histoire d'un auteur qui est en panne sèche et qui sait plus du tout quoi faire devant une page blanche. Faut dire qu'on est dans un monde de BD où on est beaucoup dans le manga, je trouve. On est beaucoup dans le fantastique. On est beaucoup dans la BD qui emmène, qui bouge. Je trouve qu'à quelque part la bande dessinée de plus en plus, en tout cas au niveau commercial, on pourrait dire s'américanise. Mais
enfin, il y a un côté très autobiographique, très personnel. Il y a un côté très fantastique, super-héros. Et c'est deux types de maisons d'édition qui les font. On a l'impression parfois là.
Et je trouve qu'avec Portugal, ben Pedroza revient à quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamentalement humain. Puis il fait pas une BD autobiographique comme peut le faire Louis Trondheim, exemple, où c'est extrêmement axé sur le jeu et sur le moi. Il y a beaucoup de ces BD-là qui sont vraiment axés sur un jeu intense, là, si on veut. Là, lui, il est le vecteur d'un regard sur les choses, et c'est là que je trouve que ça devient intéressant, parce que le récit ne passe plus ou ne passe pas nécessairement par lui, mais passe par ceux qui l'entourent, et les personnages qui l'entourent ont vraiment cœur des gens, j'ai l'impression, il a vraiment voulu rendre un hommage à ces gens-là. Ça me rappelle un peu certaines BD de Davodeau que je trouve qu'il y a un caractère presque documentaire dans ses bandes dessinées. Là.
Et que ça devient une belle exploitation du médium aussi, d'essayer de pousser ce médium-là dans certaines directions, d'aller un peu en profondeur aussi dans cet axe-là, dans le fond.
Oui, puis ce que j'aime beaucoup de Pedroza, c'est vraiment la rondeur de ses personnages, c'est vraiment le caractère des personnages de ses bandes dessinées. Il y a quelque chose de... Je viens que j'oublie que je lis une BD, je suis dans une histoire. Je trouve ça extrêmement savoureux quand une bande dessinée peut réussir à donner ce feeling-là où on entre dans une histoire qui se gonfle, entre guillemets, autour de toi. Et là, par son dessin, par son style de dessin, le style va changer selon les émotions. Les couleurs vont changer aussi selon le caractère de ce qu'il veut exprimer. Quand on arrive au Portugal, la lumière est extraordinaire et tout ça glisse vers un carnet, si on veut, et vers une lettre à un père oublié ou un père disparu. Ça devient extrêmement touchant. C'est vraiment, vraiment une belle BD.
C'est ce genre de BD, on la lit, on peut sentir l'eau monter un peu aux yeux. Là. C'est...
Ça tombe pas dans le patas, ça tombe pas dans le... C'est peut-être que l'eau peut nous monter aux yeux, mais en même temps, c'est ça peut se rapprocher aussi des larmes de bonheur. J'exagère un peu, là, mais il y a quelque chose de tellement ensoleillé, de tellement beau dans cette BD-là que... c'est pas une BD à subir, puis on n'a pas le goût de se morfondre là-dessus, on a juste le goût d'aller visiter le Portugal, de toute façon, puis... on a le goût de me... Moi, j'ai fini ça, puis j'ai le goût de me faire des sardines. J'avais le goût de manger des sardines. Toi, genre, on embarque vraiment dans l'univers du Portugal, et c'est magnifique.
Et je pense que c'est clair de ce que j'entends, Stéphane Gravel. Ce soir, en fait, cette BD-là, tu me la recommandes chaleureusement.
Ah, ça, oui, absolument, absolument. S'il y a un cadeau de Noël à mettre en dessous de l'arbre, là, avec une BD qui a une valeur... et qui peut avoir une valeur sentimentale. Puis c'est une BD qu'on peut relire. J'ai quasiment hâte de la relire, cette bande dessinée-là, parce qu'elle est tellement volumineuse, il y a tellement de choses, il y a tellement de détails dans le dessin, il y a tellement de détails dans le texte, que je pense que c'est facile de relire cette bande dessinée-là pour aller s'imprégner d'autres sentiments. Là. C'est presque une œuvre majeure en BD, là, pour les derniers temps, là.
Alors, ça s'appelle Portugal, c'est de Pedroza, c'est chez Dupuis. Et on finit l'émission et on s'en va l'acheter, tout simplement. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et on se dit dans deux semaines.
Oui, absolument.
Mais merci beaucoup à toi.
OK, bye.
Ah ben voilà, donc une suggestion, en fait, je n'ai pas lu cette BD, là, je me sens subitement coupable. Je vais sûrement m'organiser pour pallier à la situation le plus rapidement possible. On repart en musique avec Cert One et au retour, on jase avec Delaf et ou Dubuc. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour La vie en BD. Et on l'a mentionné en ouverture, un album bien attendu, j'en suis certain, par plusieurs d'entre vous et plusieurs de vos amis également. Tome 5 de la série Les Nombris qui est arrivé en librairie donc il y a quelques jours. Tome 5 qui s'intitule Un couple d'enfer. Et pour nous en parler, pour en discuter avec nous, l'un de ses auteurs, donc Maryse Dubuc. Bonjour.
Bonjour.
Alors, lancement tout récent, c'est le marathon un peu qui commence pour vous. D'ailleurs, en fait, tournée promotionnelle, j'imagine, autant au Québec qu'en Europe, qui est à l'horaire, là.
Ben oui, exceptionnellement, cette fois-ci, on a décidé de commencer par le Québec. On a eu la possibilité de le faire. Ça nous a été offert par notre éditeur. Donc, on fait la promo ici, puis ensuite, c'est ça, on prend l'avion pour Belgique et France, et puis aussi l'île de la Réunion.
Donc, quand même, ça fait un beau parcours.
Oui.
et est-ce qu'on a l'impression, parce que, je le disais à l'entrée de jeu, c'est un album qui était très attendu. Les premiers tomes, les quatre premiers ont très, très bien fonctionné un peu partout dans la francophonie. Est-ce que ça mène une certaine pression quand on arrive au cinquième, en sachant justement qu'il y a des fans, qu'il y a des gens qui aiment, qui suivent tout ça, et qui ont très hâte, justement, de voir ce que vous allez leur offrir?
Ah ben, il y a un peu les deux côtés de la médaille. Oui, c'est sûr que de savoir que c'est aussi attendu, que les gens sont vraiment aussi impatients de le lire, ça met une certaine pression. Mais d'un autre côté, ça met aussi en confiance. Les gens ont apprécié les quatre premiers. Jusqu'à maintenant, on a réussi à les satisfaire, à les amuser. Donc, on se dit un peu, bon, pourquoi cette fois-ci, ce serait différent. Donc, mais ça, c'est vraiment très variable. Hein. Dans la création, il y a des journées où on est en confiance, il y a des journées où on doute. Donc, il y a vraiment les deux possibilités.
Et j'ai l'impression, en voyant aussi l'évolution de la série, avec le tome 4, on a pris vraiment plus une tangente album, justement, qui est affirmée à nouveau avec le tome 5, où la structure strips ou gag à une planche des premiers opus de ce qu'on voyait dans Safari, notamment, ben on l'a pas mis de côté, mais on a amené la série ailleurs, là.
Ben oui, mais c'est ça, au départ, c'était vraiment une série uniquement à gag, donc je dirais dans les 10 premiers gags, mais très vite, l'envie d'ajouter un fil rouge à tout ça, c'est mêlé à tout ça. Donc, oui, dans le premier album, c'était vraiment un simple fil rouge, donc une toute simple intrigue. Mais d'album en album, on voit que l'intrigue s'épaissit, les personnages prennent de la profondeur. C'est une balance qui nous vient naturellement, une envie comme ça d'aller un petit peu plus loin, d'aller rechercher au-delà de l'émotion, du rire et de l'amusement, d'aller chercher d'autres émotions, l'envie, la peur, la crainte, vraiment la pitié, vraiment des émotions qui sont peut-être un peu moins attendues dans le cadre d'une série humoristique, mais qui justement viennent mettre un contrepoint à la légèreté apparente, si on veut, de la série, alors qu'il n'y a pas que ça dans les nombrés.
Oui, puis j'ai l'impression aussi, en fait, qu'un gag va fonctionner même encore mieux quand on s'est vraiment attaché au personnage et de se donner une structure album, une structure plus axée sur l'histoire. Bien, ça permet aussi de créer peut-être ce rapprochement-là, de faire le parallèle entre nous et Karine, nous et Dan, etc., etc.
Oui, c'est ça. Ça fait des gags qui fonctionnent mieux. Ça fait des personnages auxquels on s'attache plus, mais ça fait aussi, c'est ça, des gags qui ont une raison d'être. Mm-hmm. C'est pas des gags qui sont empilés les uns derrière les autres comme ça, sans véritable raison. On peut pas prendre une page du tome 5 puis l'amener dans le tome 2 sans que personne s'en rende compte. C'est vraiment, c'est ça, c'est presque rendu d'abord une histoire qui est charcutée, si on veut, en petites histoires, petites sous-histoires d'une page chacune avec une chute. Puis je pense que ça nous permet aussi parfois, dans certains cas, d'aller toucher des thématiques différentes, des thématiques qui, normalement, ne seraient pas partie d'une histoire. Des thématiques qu'on ne voit pas en bande dessinée, on parle quand même dans les nombris parfois de suicide, de parents qui sont totalement démissionnaires, des trucs qui sont vraiment très, très durs, mais comme on fait de l'humour tout en faisant une histoire, mais l'humour permet un peu de désamorcer tout ça, puis de l'amener un peu, de rendre acceptable, si on veut, pour des publics très, très différents, là, autant des lecteurs adultes que des lecteurs qui sont parfois très jeunes.
Et même quand même dans la structure, vous le mentionniez, il y a encore des gags, il y a encore des planches, il y a encore ce rythme strip-là qui est présent, mais qui est vraiment plus englobé à l'intérieur de l'histoire, donc ça doit être quand même, je me disais, côté mécanique d'écriture, un bon défi, en fait, dire, bon, OK, il faut que je développe quand même mon histoire, il faut que ce gag-là ait sa raison d'être, comme vous disiez, mais en même temps, il faut aussi avoir ces petits punchs-là qui arrivent de manière sporadique ou régulière, qui font sourire, qui font rire, et qui apportent à l'histoire. Donc, ça devient un bon défi, là.
Oui, c'est extrêmement complexe. C'est vraiment un casse-tête à plusieurs niveaux. Heureusement qu'on est deux pour travailler au scénario, deux pour devenir aucune. Mais aussi, en fait, c'est qu'on a une vision de l'histoire complète d'un album. Et puis, au fur et à mesure qu'on écrit les gags, forcément, il faut faire des détours parfois pour arriver à rendre une situation humoristique, ce qui nous éloigne de notre premier objectif, si on veut, avec l'histoire. Et puis, ça finit par réintervenir en histoire, influencer le cours des événements. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. On ne pourrait pas, par exemple, dans le cas des nombrils, on ne pourrait pas écrire le scénario de la première à la dernière page sans avoir vu si ça fonctionne bien en gag. Il faut vraiment travailler les deux de pair.
Puis voir venir un peu, savoir où on veut terminer, mais dans le fond, se laisser quand même une liberté aussi dans la création, dans la mise en page, dans la scénarisation, dans le fond.
C'est ça, c'est une improvisation semi-contrôlée, là, vraiment, on essaie de rattraper les choses, puis on vit avec les erreurs, si on veut, de parcours, les détours qui nous sont imposés par la forme, mais je pense qu'au final, ce que ça fait, c'est que ça enrichit tout ça, puis ça finit par faire un tout qui se tient de... relativement bien.
Et parfois, j'ai l'impression, en fait, quand on parle de séries humoristiques, les personnages restent quand même assez similaires d'un album à l'autre. C'est simplement des aventures, des péripéties qui leur arrivent. Dans ce cas-ci, tout particulièrement dans le tome 5, vous avez dit, ben, en fait, ça donne l'impression que vous êtes donné le droit, justement, de transformer littéralement l'un de vos personnages principaux avec les vêtements, l'attitude et le reste. Donc, c'est un peu une Karine 2.0 que vous avez décidé d'offrir.
Exactement, c'est ça. Karine, qui depuis le début dans la dynamique du trio était la faire-valoir, la victime, donc celle vraiment qui réparait les pots cassés. Maintenant, elle revient avec un nouveau look, une nouvelle attitude, et puis ça remet en question tous les personnages autour d'elle. Donc ça a complètement modifié la dynamique. Dans un album avec une histoire complète, c'est relativement simple de faire ce genre de changement-là, mais effectivement, dans un album d'humour, ça change vraiment la dynamique entre les trois.
Ça renouvelle, j'imagine, aussi l'inspiration pour vous. La dynamique à trois était claire. Maintenant, OK, on brasse un peu les cartes. Qu'est-ce qu'on réussit à faire sortir de ça?
Bien, c'est ça. Au départ, on n'était pas certains de notre coup, mais on se met à manger à la fin de chaque album. Ça fait un peu partie du plaisir aussi. Souvent, on termine un album, les lecteurs vont nous dire, mais dites-nous un peu ce qui se passe dans le prochain. Mais honnêtement, on ne sait pas parce qu'on est dans le même cas que le lecteur. Bon, c'est sûr qu'on a une longueur d'avance parce qu'on a placé des indices pour certaines possibilités pour la suite. Mais la fin d'un album, c'est toujours vraiment un cliffhanger. C'est volontairement, on laisse le lecteur en suspens et on se laisse nous-mêmes dans la même situation parce que ça fait partie du plaisir de créer pour nous.
Et le jeu physique aussi, justement, je parlais tout à l'heure du look, ça permet, j'imagine, de représenter visuellement les changements intérieurs que votre personnage vit. Donc, c'est un peu une extension de ça.
Oui, exactement. C'est ça. Dans le fond, c'est que Karine, c'est vraiment un personnage qui était caractérisé par sa naïveté depuis le début de la série. Et puis là, elle s'est vraiment bien fait avoir dans le tome 4. Et ça l'a forcé à, bon, s'éloigner de sa propre naïveté, puis pratiquement devenir quelqu'un d'autre, juste pour pouvoir un peu remettre les choses en place, puis remettre, donc c'est Mélanie qui était son ennemi, si on veut, la remettre à sa place. Ça l'a forcé à quelque part se mettre en contact avec une partie plus sombre d'elle-même. Et puis, à partir du moment où on la voit habillée en noir, là, il y a vraiment une connexion qui se fait entre vraiment comment elle se sent intérieurement et puis de quelle façon les gens peuvent la percevoir aussi. Mais d'un autre côté, dans le tome 5, justement, on se mêle avec cette dualité-là de Karine qui cherche son identité là-dedans, qui est à la fois l'ancienne Karine naïve et la nouvelle qui refuse totalement de continuer à être une victime.
Et quand on disait tout à l'heure, justement, que d'avoir des personnages bien, bien tridimensionnels pour apporter des gags, ça devient un terreau quand même assez fertile. C'en est un bon exemple où on ramène justement l'ancienne personnalité de Karine avec le nouveau costume avec la version 2.0, puis subitement, on a un punch qui se crée naturellement. Là,
Oui, ben c'est ça. On s'est bien amusé de par exemple, c'est ça, un gag où on voit, on exprime la dualité de Karine avec une espèce d'intervention de son ancien elle-même qui vient discuter avec son nouveau elle-même. Donc, physiquement, on les voit les deux qui discutent l'un avec l'autre, puis on comprend que à l'intérieur d'elle-même, Karim, à ce moment-là, n'est pas nécessairement en paix. C'est pas si facile que ça dans la vie de changer, d'évoluer, de devenir d'aller au-delà de soi-même.
Et dans les nombris, de manière générale, ce que j'ai toujours trouvé qui était une force, à mon sens, de votre série, c'était la dynamique des dialogues, en fait, qui sonnent vrais, mais aussi les dialogues en trio qui fonctionnent, où il n'y a pas de personnages outre, bon, volontairement, mais qui s'écrasent en termes de présence. C'est le reste, donc, vraiment, de réussir à créer ce dialogue dynamique-là, rythmé, entre vos trois protagonistes.
Oui, c'est ça. Les nombris, c'est vraiment un trio. Quand on nous demande c'est qui le personnage principal, c'est difficile à dire. Dans les derniers albums, il y a quelqu'un qui a été mis un petit peu plus de l'avant, mais c'est tout à fait possible que dans les prochains albums, ce soit un autre personnage qui ressorte davantage. Mais c'est ça, au niveau de la dynamique, c'est aussi au niveau de l'humour, ça nous aide d'avoir trois personnages qui se complètent comme ça, mais qui sont aussi tellement différents. À chaque fois qu'on présente une nouvelle situation, chacun des trois personnages a une vision de ce qui se passe, a quelque chose à dire là-dessus. Ça nous vient naturellement et ça nous tente vraiment comme auteur à chaque fois de vraiment exprimer la perception de chacun des personnages de ce qui arrive. Puis en poussant un petit peu plus loin à chaque fois la réflexion de chacun, c'est là où vient l'humour, parce que chacun étant très différent, en le poussant plus loin, ça devient suffisamment extrême pour provoquer le rire.
Et donc, on peut découvrir tout ça, on peut découvrir où en sont donc ces nombris avec le tome 5, Un couple d'enfer, c'est chez Dupuis. Et Marie-Yves Dubé, en terminant, est-ce qu'on a déjà un échéancier pour le 6 où on se dit, regarde, on va faire la promo, on va prendre une pause, puis après ça, on verra?
Il n'y a pas d'échéancier, mais c'est sûr que l'éditeur essaie de nous convaincre de viser 2013. C'est possible la première moitié de 2013 pour le tome 6. Mais en même temps, c'est la création. Hein, c'est toujours difficile de fixer un échéancier, comme vous le dites, mais on a décidé, dans le fond, notre choix, c'est d'y aller pour la qualité, donc plutôt que de se presser. C'est un peu cruel, mais comme on dit dans les albums, la vie est cruelle.
Voilà. Marie-Yves Dubuc, merci beaucoup.
Ben, c'est un plaisir.
Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée, au revoir.
Alors voilà, Marie-Yves Dubuc, donc l'une des deux auteurs de la série Les Nombris aux côtés de Marc Delafontaine. Je rappelle, tome 5 des Nombris qui vient d'arriver en librairie, Un couple d'enfer. Un petit extrait de Cert One qui nous amène à 5h58 minutes. Petit clin d'œil rapide au passage. Une nouvelle série, vous êtes peut-être tombé là-dessus au fil de vos pérégrinations libraires. Une nouvelle série de Trondheim qui avait commencé il y a de ça quelques temps. Deuxième tome qui nous est apparu au cours de l'automne. Série Ralph Azam, tome 2, La mort au début du chemin. Une série, je ne sais pas pour vous, mais qui pouvait laisser peut-être un peu perplexe après le premier tome, dans la mesure où on ne savait pas exactement, ou même vaguement, où Trondheim semblait vouloir s'en aller avec donc cette nouvelle série, et également un univers qui nécessairement nous forçait à faire un parallèle avec l'univers de Donjon, pour le meilleur ou pour le pire, puisque ben, Donjon, on connaît ce monde-là, on l'apprécie énormément. Alors, d'offrir une série qui était quand même assez similaire en termes de facture graphique, en termes de période, en termes de look des protagonistes à tout le moins, ben, ça pouvait sembler être une arme à deux tranchants, donc une curiosité qui est stimulée par l'appréciation qu'on a de Donjon, mais en même temps, il y a la brique également, dans la mesure où si c'est moins bon, ben on se décide quand même assez rapidement. Reste que il y avait suffisamment dans le tome 1 qui nous avait intéressé pour avoir envie de poursuivre le chemin. Tome 2 qui continue ce chemin un peu à tâtons, donc on a l'impression un peu qu'on a les yeux fermés, qu'on ne sait pas encore précisément non plus où on s'en va, mais on aime bien par contre ce chemin que nous fait parcourir Trondheim. Un peu plus d'éléments qui se mettent en place d'ailleurs au tome 2, à la limite presque, j'aurais envie de dire, vous pouvez commencer à deux et poursuivre par la suite, ça devrait pas causer trop de problèmes. Donc des personnages qui sont hauts en couleur comme à l'habitude, une histoire un peu décalée, un humour un peu décalé, donc quand même assez réussi à ce titre-là. Donc, un univers dans lequel la magie devient un élément fondamental, des combats entre magiciens, les pouvoirs des uns des autres qui ont leur importance, un peu comme si tout le monde était un peu un super-héros, entre guillemets. Et on a l'impression quand même, je disais, on peut commencer au tome 2, parce qu'on a l'impression que l'histoire démarre réellement à ce moment-là, même s'il y a quand même une dynamique de flou. Alors, une série qui mérite d'être découverte, surtout si on aimait Donjons et si ça ne nous dérange pas justement de faire le parallèle de manière presque obligatoire. Alors, Ralph Azam, tome 2, La mort au début du chemin chez Dupuis.
Montcalm, dis-moi, Lou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine.
Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter le t-shirt de notre Jason. Tu as toujours voulu devenir une Duchesse. C'est possible, n'attends plus. Duchessise-toi. Nouveauté cette année, il y aura pas de Duchesse. Mesdames et messieurs, de 18 à 108 ans, rendez-vous à Renongeant Duchesse avec un S.com. 18 novembre, la renonce en juin 2012. Ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal.
Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité. Une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités. Zic Non Bombs, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja and I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou, entrée 10$. Informez-vous sur sfgpq.org, 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL.
Le gala de CKRL est de retour pour une quatrième année et c'est maintenant le temps de voter.
Comment peut-on l'expliquer?
Votre participation compte pour 50% du résultat. Rendez-vous sur le site de CKRL et faites-nous connaître vos émissions favorites.
Un monde en apparence inaccessible.
Les gagnants seront dévoilés le 25 novembre prochain.
Qu'est-ce que cela signifie?
Vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter. CKRL.qc.ca. Parce que c'est maintenant à votre tour de vous faire entendre.
Mon intelligence se révolte!
Remember how I'm going to live forever.
Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Je vous mentionne d'ailleurs, la station a lancé son gala de fin d'année dans lequel les émissions sont récompensées, leur performance est soulignée et le public est invité à aller voter pour leurs émissions favorites. Alors, vous pouvez le faire. Je vous invite à soit voter pour La Vie en BD ou pour une autre. C'est libre à vous entièrement. Simplement de vous faire entendre en allant au www.ckrl.qc.ca et sur la page d'accueil, vous avez la zone pour le vote. On reste dans les très récentes sorties. Un nouvel album qui s'appelle Biodôme tome 1, Le sens du poil, qui est arrivé en librairie tout récemment. Et on va parcourir un peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série en compagnie de ses deux auteurs. En studio, Johan Morin, bonjour.
Bonjour.
Et au bout du fil, Frédéric-Antoine, bonjour.
Bonjour.
Alors, lancement qui a lieu assez récemment, je le disais, au Biodôme de Montréal, et un contexte évidemment qui est tout à fait à propos considérant la teneur de la série. Et je me demandais d'ailleurs d'où vous est venue l'idée de dire bon, on va faire une série humoristique, une série à gag au Biodôme de Montréal.
Tu peux aller faire. Est-ce que j'y vais, là?
Ouais, vas-y.
Je prends la parole parce que, bon, à la base, j'ai trouvé le concept de mettre en place des animaux vivants dans un pseudo-biodôme. Alors, j'avais créé cette BD en 2006 pour Safari à la base. Mm-hmm. Puis, Johan s'est joint à, au projet avec son dessin qui fitait exactement avec ce à quoi je pensais pour cette BD. Fait qu'on s'est assis ensemble, on a mis ça en place. Puis, à la base, c'était donc un autre biodôme différent avec d'autres animaux. C'était une hyène, c'était un fennec. Et finalement, au fur et à mesure du développement de la BD, on a eu la possibilité de pouvoir faire cette BD en relation avec le biodôme. Ils nous ont prêté le nom et la possibilité d'utiliser le site au niveau du décor. Donc, ça a donné cette version donc, de biodôme avec le Baxter, le lynx et Marco la loutre.
Alors, un peu plus ancré dans la réalité animale québécoise, si on peut dire. Et en même temps, le biodôme qui permet une belle variété d'environnements. Donc, il y a de multiples décors, il y a de multiples animaux. Donc, ça fait déjà, permettez-moi le jeu de mots, une certaine ménagerie disponible pour les créateurs, pour les dessinateurs.
Mais presque trop. Presque trop, parce que sur 40 pages, on ne pouvait pas amener tout le monde. À un moment donné, justement, avec Johan, on regardait ça, puis on voulait mettre plusieurs personnages, avoir plus de place avec le Gorfou, ou utiliser plus le paresseux. Mais finalement, non, on s'est vraiment centré sur deux personnages. Puis après, autour d'eux, ça gravite. Petit à petit, il y en a qui vont prendre plus d'importance, un petit peu moins. On reste quand même avec les deux personnages, mais c'est vrai qu'on va essayer d'utiliser au maximum toute cette ménagerie, et peut-être même en amener une nouvelle, parce qu'on est quand même, tout en prenant référence sur le biodôme, on est quand même une œuvre à part, et on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin et de changer certaines choses.
Et quand on développe une série comme ça, justement, comment ça se passe? Est-ce qu'on se lance un peu avec les personnages, on essaie de faire des tests physiques, on essaie de les décrire au niveau psychologie, voir un peu quel genre de personne c'est pour essayer d'avoir une galerie qui se tient? Donc, comment on procède? Est-ce que c'est d'abord sur papier? Est-ce que c'est d'abord le dessin?
Avec Johan, on pourrait dire que c'est un peu les deux. Au début, j'amène certaines idées parce que, comme je l'avais commencé à la créer, au début, j'avais déjà certaines psychologies de personnages, mais Johan, en faisant ses sketchs, mm-hmm. apporte beaucoup sur la psychologie. Simplement voir son dessin, tout de suite je me disais, ah non, finalement il sera pas comme ça, il va être plutôt comme ça. Donc le dessin de Johan m'a beaucoup apporté pour développer d'autres personnages. Au niveau des personnages principaux, c'était à peu près j'avais déjà mon idée, mais quand il m'a dessiné, par exemple, la loutre, ça a pris une proportion différente. Elle a été, j'y suis plus allé avec un personnage plus débile, je dirais. La loutre est un peu débile.
Ouais, c'est vrai. Et Johan, de ton côté, comment on attaque justement un peu ça, la mise en place des personnages?
Ouf, c'est une bonne question. Ben, en fait, c'était un peu une première expérience pour moi de faire une bande dessinée avec des personnages récurrents, ce que j'avais jamais fait, ce qui était... Moi, depuis plusieurs années, je fais du gag, pour Safari. Hein. Mm-hmm. Puis, c'est pas des histoires vraiment racontées sur plusieurs cases. Là, c'était d'autres choses, c'était différent, mais... Avec les personnages que Fred apportait, je pense que il y a une bonne dynamique, je pense.
Ça, vous inspirez les deux l'un l'autre. Mmh. Et ce que j'ai bien aimé de la série aussi, au niveau de la dynamique, les animaux sont pas seuls ensemble à se parler, et les humains de leur côté qui se parlent. Donc c'est tout le monde travaille ensemble. C'est pas la dynamique Garfield ou Bleebill du tout là. Qu'est-ce qui a amené ce choix-là, justement, de dire dans la ménagerie, il faut qu'il y ait des humains, il faut que ces humains-là puissent discuter, puissent avoir des relations de travail standard avec les animaux dans le fond.
C'est venu de même, je pense. On voyait pas les animaux d'un bord, puis que ça se passe juste avec les animaux, puis les humains de l'autre. Fallait que ça se mélange pour aller jusqu'au côté absurde et apporter un maximum de rocambolesque dans les situations, et aussi de diversité. Il fallait que les deux mondes interagissent.
Ouais, sinon ça nous fermait un peu si on avait vraiment fait deux classes qui se parlent pas, mais là, ça n'aurait pas marché, je pense.
Et la preuve, c'est que Samuel est arrivé sur la fin, le stagiaire, n'était pas prévu, il est vraiment arrivé sur le tard dans la création de l'album. Et il nous a permis, justement, c'est lui qui, en arrivant, quelque part, fait le lien pour les lecteurs. Mmh. En arrivant, on présente le biodôme un peu. Il y a le premier gag, de quelques pages, qui présente avec, avec Régent, entre guillemets, le gardien-chef, mais l'animalier en chef. Mais Samuel arrive pour apporter une autre touche, et il va avoir son importance aussi petit à petit dans les... au fil des albums. Dans le second album, on prépare déjà d'autres choses. Là, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'interactions.
Et la structure même aussi, vous ancrez pas dans un acte, justement, une planche, un gag, ou deux planches, un gag, mais vraiment, c'est variable. Il y a des gags très courts, il y a des gags beaucoup plus longs. Et vous êtes donné une certaine liberté en termes de structure?
Totalement.
Oui, oui, c'est vrai. En fait, on copie un peu le style franco-belge, un peu comme Gaston Lagaffe, vraiment, le style vraiment pur et dur, où il y a des gags demi-page, des gags de trois pages. On ne s'est pas borné à faire une planche, un gag. Je trouve que c'est mieux comme ça.
Et surtout aussi que quand on arrive à j'arrive avec une idée, puis il y a des idées qui marchent bien en une page, puis il y en a d'autres où on sent qu'il y a un potentiel pour un petit peu développer plus. Par exemple, le gag d'introduction, il fallait que ce soit développé en plusieurs pages pour que ça prenne le temps d'arriver, puis que les animaux aient le temps de dire des bêtises. D'autres, par contre, c'est on sent tout de suite, il y a le début, il y a la chute, ça peut se faire en une page. Puis cette liberté nous permet de nous préparer pour peut-être plus de liberté qu'on prendra dans les prochains albums, peut-être faire des histoires un peu plus longues. Mm-hmm.
Donc de pas s'ancrer là-dedans, et même au niveau des cases, de pouvoir jouer un peu avec le format, de pouvoir... Est-ce que cet axe-là, justement, le côté rythmique, c'est vraiment dès le scénario, ou c'est plutôt au dessin qu'on commence aussi à essayer de rythmer dans la page?
Dans les deux.
Oui, dans les deux. En fait, Fred me donnait son scénario, vraiment à chaque case détaillée, le texte et tout. Et moi, je voyais comment ça fitterait mieux dans une page ou deux. Je découpais les cases carrément, puis je voyais que si c'est trop jammé dans une page, ben on étale sur deux, puis on modifie un peu le scénario en conséquence. Mais je pense que c'est ça. C'est vraiment un travail à deux pour ça.
Et donc là, la série est lancée, elle est disponible en librairie chez Boomerang. Et de ce que j'en comprends, déjà, vous avez commencé à réfléchir pour le tome 2.
Oui, tout à fait. Ben, en parlant disponible, elle est donc disponible en librairie, puis elle est disponible, bien sûr, aussi au Biodôme,
oui.
dans la boutique. Pour ce qui concerne le tome 2, oui, on a déjà lancé des idées. On s'y met ce mois-ci pour commencer à mettre en place la structure du tome 2. On a déjà aussi des idées de structure pour le tome 3, parce que là, on va continuer sur le style de gag, mais dans probablement le troisième tome, il va y avoir un apport de personnages et de rythmiques différents, et l'éventuel quatrième tome importerait encore quelque chose de différent, ce serait probablement même une histoire complète.
Alors, un peu dans la lignée, enfin, on parlait avec Marie Zubic des Nombrés tout à l'heure, un peu dans la lignée où eux ont commencé en planche, en gag, et éventuellement.
C'est oui, évolué, ben, ils donc, vont sûrement c'est... nous faire un procès bientôt. Hein.
Alors, ben, d'ici là, donc, on découvre la série donc Biodôme, tome 1 dans le sens du poil, je le rappelle, c'est chez Boomerang. Frédéric-Antoine, merci.
Avec plaisir.
Yoann Morin, merci.
D'accord.
Et bonne chance pour la suite.
Merci, c'est très gentil.
Et nous, de notre côté, on reprend une petite pause musicale, la dernière de l'émission. On écoute toujours Cert One avec cet album With It. soirée toujours avec vous. Dernier segment de l'émission La Vie en BD. Je vous rappelle, vous pouvez toujours aller visiter le blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. Notamment, les émissions, ils sont disponibles en podcast, les émissions passées. Également, on a une page Facebook qu'on vous incite évidemment à visiter. Et on passe donc à ce dernier segment de l'émission où on plonge dans l'univers des fanzines avec Olivier Bérard-Vidal. Bonjour. Et j'ouvrirai le bon micro, ça donne une chance. Ouais.
Merci.
Ça marche. Et un peu comme il y a deux semaines, Olivier, tu as décidé de t'adjoindre Samuel Murdoch.
Salut.
Salut. Alors, pour nous parler, en fait, on va parler de Mille Putois cette semaine, Raymond Biesinger et Simon Bossé.
Oui, Simon Bossé, c'est Mille Putois.
OK.
Voilà. Donc, on parle de deux artistes. Simon Bossé, c'est un artiste de Montréal. Il fait de la bande dessinée, de l'édition, du fanzine, de la sérigraphie. Il travaille depuis 1990, c'est un ancien, on peut dire ça. Il a publié en 2002 puis en 2009 deux BD chez Alois de Cravant. Plus récemment, il a fait il auto-publie une série de petits fanzines qui s'appelle la collection Portefeuille. Notamment, il y a eu le catalogue de Boulon de Julie Doucet, 1998-2008 de Iris. Puis récemment, World War One fait avec Raymond Biesinger.
Okay, donc, d'où la collaboration, d'où la mention de l'animateur des deux noms.
D'où le fait de parler de ces deux artistes aujourd'hui. Ça, c'est un résumé de ce que Simon fait. Sam, qu'est-ce que tu as ajouté sur Mille Putois?
On va être les deux. Moi, ce que j'aime des deux artistes, c'est que c'est deux artistes qui font de l'art visuel, mais c'est deux musiciens aussi. Puis souvent, j'aime un musicien qui n'a pas besoin de faire de l'art visuel, puis un artiste en art visuel qui n'a pas besoin de faire de musique. Mais quand les deux sont ensemble, puis qu'il y a un qui fait les concepts, qui fait les paroles, qui fait la musique, donc ça fait une espèce de package qui est comme complet, qui est inspirant. Puis Raymond, qui joue dans un groupe qui s'appelle The Famines.
C'est ça, ben, petit résumé de Raymond Biesinger, artiste de Montréal. Lui, il est designer graphique, illustrateur.
Récemment de Montréal.
Récemment de Montréal?
Oui, il vient d'Edmonton.
Il vient d'Edmonton,
ça
voilà.
Ça fait 6 mois qu'il est à Montréal. Ouais.
Merci. Puis, il a fait de l'illustration éditoriale, il fait le design graphique pour son groupe The Famines. Il a fait des contrats aussi d'illustration puis de design pour Toyota, d'autres compagnies comme ça, pour des publicités.
Quand même.
C'est un artiste étonnant, vraiment comme polyvalent, vraiment incroyable. Moi, je me suis abonné depuis le mois dernier à son infolettre mensuelle. Il fait ça depuis longtemps, je pense.
Ouais, depuis vraiment longtemps, ça c'est le fun. C'est une espèce de. Puis ça nous a inspiré, nous, à vouloir faire ça, quelque chose de nous-mêmes, là, pour nos amis. Là. Mais c'est une infolettre, donc, qui n'est pas la publicité, qui n'est pas. C'est ce qui raconte qu'est-ce qu'il a fait dans le mois. Le premier du mois, tu reçois son email, puis c'est écrit bon, j'ai travaillé sur tel truc ce mois-ci. Musicalement, il se passe ça. Puis, un concours. Les 5 premiers qui me répondent gagnent une sérigraphie, gagnent un truc. Mais c'est juste une espèce de. On le voit dans son travail aussi, là, mais une espèce de discipline qui est assez stricte, mais qui est comme magnifique. Même chose pour sa musique. Puis, tout ça est ensemble. Là.
Moi, je suis vraiment touché par ça. Il a fait une affiche ou une publication qui est comme une liste de toutes les illustrations qu'il a créées comme dans sa carrière. Je pense que c'est comme genre 1000 items.
Ouais, un checklist avec des petits carrés. Là, vous pouvez collectionner chacun des endroits. Puis, un des trucs le dernier truc qu'il a publié avant de quitter Edmonton, qui était un immense, immense mural qu'il a fait, finalement, qui était comme une espèce de bannière. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet. Là.
Oui,
c'était une immense bannière sur l'histoire et l'historique des groupes de musique d'Edmonton.
De quelle année à quelle année?
De 1950 à 2010. Ben, à chaque année, il update son truc. Puis c'est une espèce de grande ligne de temps, là, un peu comme l'histoire de Jésus, mais finalement des groupes d'Edmonton. Puis des groupes vraiment obscurs. Donc, il y a une recherche derrière tout ça qui est quand même assez minutieuse aussi.
Moi, si j'admire comme un artiste qui est aussi autant dédié comme à sa pratique de pousser ça, les détails comme ça, comme notamment la collaboration qu'ils ont fait, Raymond et Simon. WW1 ou World War One, c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale en 20 illustrations et 1100 mots.
OK, donc c'est vraiment, c'est calculé, ça reste un peu dans la logique de planification, dans le
oui,
fond.
Oui, c'est une sorte de schématisation puis de simplification comme de l'histoire. Les dessins sont faits par Raymond. Il travaille souvent comme en aplat, en ligne, de façon très schématique. Puis il y a comme à travers des statistiques, tel pays, tel événement, le nombre de morts comme par pays, comme causé par la guerre. Il y a comme ce travail-là
comme de description factuelle, de d'énumération, d'inventaire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En plus, comme de son style, puis de...
Et justement, comment ça s'exprime du texte vers le dessin, le texte avec le dessin aussi, c'est cet ordre-là?
Ben, c'est sûr que dans ce livre, fanzine-là, c'est l'illustration est comme une sorte de... Le texte est un résumé de la réalité, puis l'illustration est comme un résumé du texte, qui en est un aussi. Ça fait que c'est un peu une illustration, mais c'est aussi un peu comme une interprétation, disons, de Raymond, de qu'est-ce que c'est cette partie-là de l'histoire de la Première Guerre mondiale.
Donc avec un dessin quand même assez réaliste ou quand même...
Non, c'est très schématique, c'est très semblable à ça d'ailleurs, on peut le recommander. Le site de Raymond est vraiment super, c'est comme, je pense, assez exhaustif de ce qu'il a fait comme dans les dernières années. Il n'y a sûrement pas tout parce qu'il n'y a pas 1000 illustrations sur son site.
Non, mais sa compagnie, donc sous le nom sur lequel il fait les dents, s'appelle 15.
Fait que son site, c'est 15. 15.ca. .ca. C'est ouais. Ça. On recommande d'aller voir ça. Ça donne une bonne idée de ce qu'il fait. Il travaille beaucoup en aplat, en ligne simple, en schématisation, un peu en collage. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que on peut difficilement voir qu'est-ce qu'il a fait il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait l'année passée. Il y a comme une belle continuité, puis une qualité graphique, puis une cohérence, comme qui est comme en dehors, moi c'est ce que j'aime, c'est qu'il est comme en dehors de qu'est-ce qui était à la mode cette année. On pourrait pas dire, OK,
le côté continuité qui est quand même impressionnant, parce que, un peu, je parle des comic books américains, des Charles Burns, des Chris Ware, des trucs avec Bones en bande dessinée, quelqu'un qui écrit une bande dessinée sur 15 ans, ouais. Quelqu'un qui fait un petit mensuel chaque mois pendant 15 ans, puis où est-ce que la personne a commencé à 23 ans, puis jusqu'à la fin, quand tu fais un recueil, c'est consistant en entier, c'est quand même impressionnant. Puis, qu'est-ce que Raymond fait? On parle d'illustration, on parle de publication, mais à chaque fois, on se retrouve, moi, puis OBV, Olivier, on parle de personnages. C'est des personnages. Tout ce que les personnes font rajoute au mythe de la personne. Moi, quand j'ai rencontré Raymond, il me parlait qu'il aimait beaucoup les board games, donc les jeux de table. Puis là, lui, il dit, moi, je trouve ça plate parce que les maps sont trop simples, c'est pas assez compliqué. Fait que là, il fait en sérigraphie des immenses cartes de toute la Première et Deuxième Guerre mondiale de Risk. Puis encore là, illustré, la plupart de son visuel, beaucoup souvent en noir et blanc. Même chose pour le Famine, son groupe, toujours en noir et blanc. Tu le rencontres, puis il a son idée. Moi, ce que je vais faire, je vais faire ça. Puis là, il a une idée vraiment précise de qu'est-ce qu'il design, puis qu'est-ce qu'il touche. Puis là, il dit, je vais faire... il aime beaucoup toute la musique de son groupe, de Famine, c'est sorti seulement en vinyle. Puis le vinyle, il sort un vinyle d'explication... Comment en anglais, un workshop.
Un atelier
du design graphique sur vinyle. Donc, c'est 40 minutes où est-ce que lui parle.
Il explique ce qu'il fait.
Tu sais, c'est une chose qui, à l'époque, tu avais des vinyles, tu sais, t'avais des...
C'était courant, ouais.
Tu avais les politiciens, tu avais comment arrêter de fumer, tu avais René Lévesque, un discours en vinyle, mais ça se fait plus en 2011, mais ça le touche encore, il décide de faire ça.
Et sa force, en fait, c'est que nécessairement, tu disais, pour apprécier à fond la démarche d'un artiste, souvent, ben, ça vaut la peine, en fait, de se renseigner sur la personne, de voir un peu qu'est-ce qui allume cette personne-là, c'est quoi sa sensibilité, ses perspectives, sa démarche artistique. Et donc, dans le fond, il se donne des outils pour pouvoir l'exprimer pouvoir la faire apprécier.
C'est quand quelqu'un est aussi précis dans toutes ces choses-là. Tu sais, il y a des gens qui sont super bons en illustration, des gens qui sont super bons en musique, il y a des gens qui... C'est le fun de collaborer avec tous ses amis pour mettre ça en œuvre. Sauf que quand quelqu'un, tous ses mots sont précis, c'est magnifique, tout ce qu'il fait visuellement, puis tu sais, sans comprendre ce qu'il fait, sur son site, là, c'est une toute petite pastille où est-ce que tu peux cliquer, puis tu fais toutes ces illustrations, puis à chaque fois, ça fait mouche. Puis le gars, un peu, on parlait au début de Mille Putois, il n'y a pas de différence entre Mille Putois et Raymond dans leur démarche personnelle et les commandes qu'ils ont, ou tout ce qui est du travail de...
Oui, comme, je sais pas, c'est des personnes qui ont assez confiance en ce qu'ils font pour se dire, ben... Pour un contrat ou pour moi, ce que j'ai envie de faire d'un projet personnel, c'est la même chose. J'ai pas de raison comme de travailler différemment. Oh, ouais. Je sais que ce que je fais est bon, c'est correct, ça va être ça.
Et ce fanzine-là, en fait, World War I, donc WW1, c'est une bonne porte pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, donc Raymond Bézinger, qui ne connaissent pas nécessairement Émile Putois, c'est une bonne porte d'entrée dans leur univers.
Oui, ce que je voulais dire, c'est on peut le trouver à Morgan Bridge, World War I. Il y a quelques fanzines ou livres de Simon Bossé qu'on peut avoir trouvé chez Morgan Bridge, puis aussi à Philacteur.
Et puis, l'autre invitation qui arrive, c'est dans une semaine exactement, donc le 18 novembre 2011, Raymond est à Québec, donc avec son groupe. J'ai pensé l'inviter à l'émission, mais la journée avant, ils font un groupe, ils jouent à Halifax, donc ils ont 13 heures de route à faire. Ils arrivent à Québec à 10 heures le soir. Ils jouent au Scanner, donc sur Saint-Vallier, de Famines. Donc, puis il y a une immense table de merch, donc tout ce qui est disque, tout ce qui est vinyle, tout ce qui est illustration, Raymond, Bessinger et de Famines.
Parfait, merci Sam.
Alors, ben, on découvre cet artiste-là. Et Olivier, peut-être le mot de la fin sur ces deux univers-là?
J'ai rien à dire.
Non.
Il faut les découvrir, je pense.
Voilà.
Il faut les regarder, il faut les voir. À la radio, on les voit moins, mais...
C'est ça. Allez voir.
Découvrez tout ça. Donc, Olivier Bérard-Vidal, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et c'était la dernière de l'année, donc on se dit à 2012.
À 2012, voilà.
Et Summer Duck, nous, on se dit à la semaine prochaine.
Oui, voilà. Merci Raymond.
Alors, ben, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. On vous retrouve, bien entendu, vendredi prochain, donc pour une autre édition. Et on aura le plaisir, notamment, d'avoir avec nous, vendredi prochain, Bastien Vivès et également Jean-Sébastien Bérubé, auteur de Radisson. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. C'est un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui prend le relais. We'll be right back.